Si on prend juste un instant pour visualiser une terrasse de café en plein après-midi, disons en plein cœur de Casablanca ou de Marrakech, peu importe.
Ouais, avec tout le brouhaha, les voitures, les gens qui passent.
Exactement. On regarde ce serveur qui slalome entre les tables, deux hommes qui discutent hyper vivement au coin de la rue. Bref, on pourrait vraiment penser qu'on assiste juste à une scène super banale, quoi. Un décor de fond.
À l'écart auquel on fait même plus attention, en fait.
C'est ça. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, sous nos yeux, en ce moment même, se joue une sorte de partie d'échecs sociale impitoyable, avec ses règles invisibles, ses hiérarchies, ses codes qui datent de millénaires parfois.
C'est complètement ça, et c'est exactement ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui.
Voilà, notre analyse d'aujourd'hui se penche sur cette idée fascinante. Et si le quotidien banal, les choses qu'on voit tous les jours, c'était en fait le miroir le plus précis d'une société. On s'appuie pour ça sur un document vraiment remarquable qui s'appelle Le Maroc invisible du quotidien.
C'est un petit livret d'anthropologie ordinaire, oui, écrit par l'anthropologue Adnan Ben Chakroun, sorti en avril 2023.
Et la mission de notre échange aujourd'hui, c'est de chausser une nouvelle paire de lunettes. Franchement, c'est comme voir le code de la matrice dans la vraie vie. Une fois qu'on réalise qu'un simple café, c'est jamais juste un café, on ne peut plus regarder le monde de la même façon.
Ben c'est l'erreur qu'on fait tous, hein. On croit que l'ordinaire est neutre, mais en fait, la familiarité, c'est une forme d'anesthésie. Quand on traverse une rue tous les jours, elle devient invisible, tu vois.
Ouais, on la regarde plus, on l'utilise, c'est tout.
Exactement. Or, l'idée centrale de ce travail, c'est de nous dire que l'anthropologie, c'est pas réservé aux tribus lointaines en Amazonie. C'est un outil chirurgical pour décoder notre propre trottoir, là, en bas de chez nous.
C'est une super métaphore, ça.
Parce qu'une société, au fond, ça se résume pas aux grands discours politiques ou aux textes de loi, quoi. Ça s'écrit de manière bien plus tenace dans la façon dont les gens pratiquent physiquement l'espace, ou gèrent leur temps, ou même exposent leur corps au quotidien.
Et c'est ça qui bouleverse totalement la perspective. Je suis vraiment fascinée par cette approche. Par exemple, si on prend l'espace physique, on a souvent tendance à le voir comme de la simple géométrie, de l'urbanisme pur et dur.
Oui. Comme si les murs étaient juste des murs.
Voilà. Prenons l'exemple de la médina traditionnelle, dont il parle dans le livre. De l'extérieur, on la décrit souvent avec un regard un peu romantique. Ou alors, à l'inverse, on va critiquer ces ruelles sinueuses comme un gros chaos architectural, quoi.
Alors que c'est tout sauf du chaos.
Mais carrément. C'est une grammaire sociale à ciel ouvert. L'architecture elle-même force un certain type de comportement, non ?
Ah mais complètement. C'est le bâti qui dicte la relation à l'autre. Dans une ruelle très étroite de la Médina, tu peux pas être cet individu souverain, pressé, anonyme, comme on le serait sur une immense avenue haussmannienne, tu vois ?
Oui, où on trace tout droit sans regarder personne.
Voilà. L'étroitesse de la ruelle, elle oblige les corps à ralentir. On se frôle, on est presque obligé de faire un contact visuel pour se céder le passage. C'est une architecture qui impose de fait une éthique de la cohabitation.
Et il y a aussi ce concept que je trouve dingue, c'est l'idée du seuil de la porte.
Ah oui, le seuil de la maison, c'est fondamental. Parce que le pas de la porte dans cette configuration, c'est pas une frontière brutale, genre un mur étanche, entre le privé et le public.
C'est plus pour eux, en fait.
C'est une zone de transition super souple. On s'y assied, on y discute avec le voisin, l'intimité domestique, elle déborde un peu sur la rue, et la vie collective rentre un peu dans la maison.
En somme, on n'est jamais vraiment isolé. Et cette intensité des relations humaines sculptées par l'espace, elle prend une ampleur folle quand on observe le commerce. Au lieu d'avoir un supermarché standardisé, on a le souk.
Ah, le souk, c'est le laboratoire ultime.
Mais oui, le livre montre très bien que c'est pas juste un lieu pour acheter des tomates. C'est une école d'intelligence sociale. Si on décortique juste le mécanisme du marchandage, c'est vertigineux. C'est presque une partie de poker, non ?
C'est exactement ça. C'est un test de comportement mutuel en temps réel. Le vendeur, il vend pas juste son produit. Il est en train d'évaluer l'acheteur. Il se dit, est-ce qu'il connaît la vraie valeur ? Est-ce qu'il baisse les yeux ? Est-ce qu'il a l'air pressé ? Évidemment, c'est une performance théâtrale où la réputation et la dignité comptent autant que les dirhams, en fait. Le marchandage, c'est une évaluation mutuelle du statut.
C'est fou parce que dans notre économie moderne, le but ultime, c'est d'effacer la friction. Le supermarché idéal, c'est celui où on pousse un caddie en silence, on bip un truc, On passe la carte sur une machine et paf, on sort sans dire un mot.
La fluidité absolue, oui. L'efficacité pure.
C'est ça. Alors que le souk, c'est tout l'inverse.
Le souk, il revendique cette friction humaine. Il remet la, ce qu'on peut appeler la valeur relationnelle au premier plan. La parole, c'est pas juste un bruit de fond, c'est le cœur de la transaction. Savoir marchander, bah, c'est prouver qu'on maîtrise les codes de la communauté, le respect, l'humour, la patience.
Mais du coup, j'ai une question. Avec la standardisation et l'omniprésence des grandes surfaces, est-ce que cette économie hyper charnelle, très vocale, elle n'est pas un peu condamnée à disparaître ?
Elle mute, c'est sûr. Mais l'appétit pour cette densité sociale, il reste immense. Parce que au-delà de l'échange de biens, il y a aussi la question de l'échange du temps.
Ah, l'architecture du temps. Ça nous amène directement à un autre espace clé. La gestion du temps libre et du corps public. Et là, l'institution qui incarne ça, c'est le café populaire.
Oui, attention, pas le Starbucks ou le café branché des beaux quartiers, hein.
Non, le vrai café de quartier avec les chaises en plastique, tout aligné et tourné vers la rue. Le livre utilise une expression que j'adore, c'est le parlement du quotidien. En gros, on n'y va pas pour boire un thé, on y va pour louer une durée sociale.
C'est très bien dit. Et c'est une location à très bas coût pour un bénéfice incroyable. Le temps dans ces cafés-là, il a une élasticité folle. Tu commandes un simple café noir et ça justifie 3 ou 4 heures de présence.
Ouais, personne ne te met dehors.
Jamais. C'est le prolongement du salon vers la rue. Mais surtout, et c'est là l'analyse de Ben Chakroun, c'est une machine redoutable contre l'effacement social.
Contre l'invisibilité, tu veux dire ?
Exactement. Pense aux chômeurs ou aux retraités. L'économie formelle, elle n'a plus besoin d'eux, ou pas à ce moment-là. Et l'inoccupation, quand tu la vis tout seul chez toi, ça peut vite devenir une humiliation très silencieuse.
Alors attends, là je vais me faire l'avocate du diable une petite seconde.
Vas-y.
Si on regarde ça d'un œil très extérieur, très occidental peut-être, on voit juste des dizaines d'hommes inactifs qui regardent passer les voitures. On pourrait se dire que c'est juste de l'oisiveté pure, quoi. C'est pas un peu suranalysé que d'y voir une fonction vitale de parlement ?
C'est une objection classique, mais l'oisiveté ici, c'est que la surface. Sous cette immobilité, en fait, le café fait un travail crucial. Il encadre l'attente.
Comment ça, il l'encadre ?
Ben, il transforme un temps mort, qui pourrait détruire l'estime de soi, en une présence collective qui est validée par les autres. Et puis, il y a des règles. Une hiérarchie de la parole. Il y a l'ancien qu'on n'interrompt pas, le jeune qui doit écouter, celui qui amène les infos du quartier.
Ah oui, c'est pas juste des gens posés au hasard.
Pas du tout. C'est un poste d'observation. Les habitués y remarquent qui est passé, qui a l'air fatigué, qui n'est pas venu depuis 2 jours. C'est une forme douce de surveillance de quartier, un filet de sécurité informel.
C'est fou de voir ça comme un filet de protection. Et en parlant de protection et du regard des autres, il y a un autre lieu où ça se négocie de façon hyper fine, c'est quand on touche à l'intimité du corps.
Le hammam.
Le hammam. L'ouvrage le décrit de manière inattendue. C'est pas du tout juste un rituel d'hygiène, c'est une vraie philosophie sociale du corps.
Oui, le hammam, c'est vraiment un chef-d'œuvre de gestion des paradoxes. Comment tu peux être nu, ou presque, au milieu d'un groupe, sans que la pudeur disparaisse ? C'est une vraie pédagogie sensible.
Mais attends, une pédagogie sensible ? Concrètement, ça veut dire quoi quand on est juste assis dans la vapeur à jeter des seaux d'eau chaude ?
Ça veut dire que l'environnement physique force ton comportement. La chaleur, l'humidité, bah, ça interdit les gestes brusques. Tu peux pas courir dans un hammam. L'architecture impose une lenteur.
C'est vrai que si on se précipite, de toute façon, on glisse.
Exactement. Et dans cette lenteur, tu apprends les distances sociales. On t'apprend comment laver le dos de quelqu'un sans transgresser son espace. Comment diriger ton regard sans fixer. C'est un apprentissage silencieux des limites qui se transmet de génération en génération.
C'est l'anti-vestiaire de sport moderne, en fait, où tout est néon, rapidité, fonctionnalité.
Ah oui, rien à voir.
Et alors, si on pousse cette idée du corps dans l'espace public, le livre parle de la plage, j'ai adoré ce passage. Parce que l'été, la plage, ça a l'air d'être l'espace libre par excellence, non ? Du sable neutre.
Sauf que le sable n'a absolument rien de neutre. Dès que les gens s'installent, c'est un théâtre où toutes les tensions de classe et de valeur explosent au grand jour.
C'est super visible en plus. Le matériel qu'on amène, c'est tout un langage.
Ah bah dis-moi ce que tu poses sur le sable, je te dirai qui tu es. Il y a la famille qui arrive avec la grosse tente opaque, les 4 glacières, les chaises. Ils recréent un salon, une forteresse pour se cacher des regards.
Un bunker de plage, quoi.
Voilà. Et à côté de ça, à l'autre extrême, t'as ceux qui viennent juste avec une serviette hyper fine, en exposition totale au soleil et au regard.
Et cette exposition, c'est une sacrée négociation. Qui se met en maillot, qui garde un t-shirt, comment on gère les regards des voisins. Le simple fait de s'asseoir face à la mer, c'est un test des limites de tolérance. Franchement, ça a l'air épuisant vu comme ça.
Bah, l'espace public est toujours un espace moral. Ça demande une énergie constante. Mais si le quotidien demande autant de gestion, c'est aussi hyper intéressant d'observer ce qui se passe quand cette routine se brise.
Ah oui, les rites, les moments de rupture, la joie ou le drame. L'analyse met en parallèle les mariages et les funérailles, et le contraste est saisissant.
Ce sont les deux visages de la société face à l'extrême.
Si on prend le mariage aujourd'hui, c'est devenu l'arène ultime de la respectabilité, une grosse entreprise de communication, deux familles qui doivent projeter leur statut, et à cette tension constante entre le respect des traditions anciennes et l'exigence hyper moderne, presque instagrammable, quoi.
Le mariage, c'est vraiment le moment où la société exige la perfection. Mais à l'inverse, c'est pendant les funérailles qu'on voit la véritable puissance du lien social.
Oui, la vitesse de la solidarité. Face à la mort, la société laisse pas l'individu seul dans la sphère privée.
Jamais. Immédiatement, tu as cette mécanique de solidarité foudroyante. Les voisins prennent le relais, logistique, ils amènent à manger, ils gèrent les chaises. Et surtout, ils utilisent un langage très spécifique. Des formules religieuses, des phrases toutes faites.
C'est marrant parce que, de prime abord, répéter des formules codées à quelqu'un qui vient de perdre un proche, on pourrait se dire que c'est hyper impersonnel.
En réalité, c'est l'inverse. C'est un filet de sécurité. La douleur du deuil, elle est chaotique, elle est indicible. En imposant ces mots codés, ben la communauté encadre la douleur. Ça évite que les proches s'effondrent totalement dans le vide.
Ça fait barrage au vide émotionnel, en somme.
Oui, le groupe te rappelle physiquement, par sa présence et ses mots, que l'ordre collectif tient toujours debout.
C'est très beau. Mais cette synchronisation, elle n'est pas réservée qu'au drame. Il y a un moment quotidien, un mois par an, où cette synchro prend une échelle métropolitaine dingue, l'œuf-tour.
Ah, la rupture du jeûne pendant le ramadan.
C'est ça, j'adore cette image du livre. Tout le temps urbain est calqué sur une minute précise, le coucher du soleil. C'est comme un battement de cœur synchronisé à l'échelle d'une ville entière. Les rues sont chaotiques et d'un coup, le silence absolu.
Ce silence soudain dans la rue, c'est la manifestation la plus pure de ce que l'auteur appelle une « communauté temporelle ». Des millions de gens suspendent leurs privations à la seconde près. C'est plus de la faim subie, c'est de la patience partagée.
Et la table du futur, avec son abondance, elle devient le marqueur de l'honneur de la maison. Mais bon, une société aussi bien réglée a parfois besoin de relâcher la pression, non ? Le livre parle de moments comme Ashoura ou les Moussem.
Oui, parce qu'on ne peut pas vivre que dans le contrôle. Ashoura, c'est la permission du désordre. Les enfants s'emparent des rues, ils font exploser des pétards, ils font un bruit pas possible, l'ordre ferme les yeux en instant.
Une vraie soupape de décompression. Et les Moussem, alors ? Ces immenses rassemblements, le mélange est tellement improbable. T'as le sacré, la bénédiction sur le tombeau d'un saint, et juste à côté, la fête foraine, les vendeurs de tapis et la fantasia.
Ça ferait exploser un cerveau trop cartésien, c'est vrai. Mais ça prouve une chose, Evelyne. Cette société n'a pas besoin de séparer, de façon hermétique, le sacré et le profane. Tout fait système. Et la fantasia, avec ses chevaux au galop, c'est fascinant. C'est une société qui bricole sa cohérence.
Bricole sa cohérence.
Oui, on prend la violence guerrière du passé et on la stylise, on la transforme en un spectacle festif et consommable pour le présent, tout en gardant cette mémoire de la tribu et de la force.
Tu prononces le mot « tribu » et c'est la transition parfaite pour la dernière partie de notre réflexion. Parce que là, on s'est beaucoup concentré sur la médina, le souk, les traditions. Mais qu'en est-il de la modernité ? Les grands quartiers d'affaires, la jeunesse dorée de Casablanca, est-ce que cette grille de lecture anthropologique, elle tient encore la route face à la mondialisation ?
Elle s'effondre pas du tout. Au contraire, elle s'aiguise. La modernité n'efface pas l'ancienne grammaire sociale. Elle la reconditionne juste, avec de nouveaux décors.
C'est fou. Donc par exemple, un vernissage d'art contemporain dans une galerie très chic.
C'est le laboratoire parfait. L'art, dans ce contexte, c'est presque un prétexte. L'enjeu, il est territorial et statutaire. C'est aussi féroce que dans le souk.
C'est clair. Ce qu'on y expose vraiment, c'est son propre capital culturel, quoi. Comment tu tiens ton verre, quel vocabulaire tu utilises pour parler d'une toile, à qui tu fais la bise, à qui tu fais juste un signe de la main.
Le bon goût devient une arme de distinction. Une arme douce, mais une arme quand même. Sous couvert d'élégance, on distribue de la légitimité sociale.
Et ça se voit même dans l'architecture moderne, comme les fameux rooftops.
Ah, les rooftops, c'est l'exemple spatial ultime. La hauteur physique, c'est devenu un marqueur de réussite. S'élever physiquement au-dessus de la ville, c'est s'extraire de la pollution et du bruit de la rue.
Des gens ordinaires en bas, quoi.
Exactement. De là-haut, la métropole grouillante, elle devient juste un beau paysage inoffensif. On met le chaos sous cloche, on s'achète le privilège de la distance.
C'est une observation chirurgicale, je trouve. On voit des jeunes cadres hyper connectés qui prennent un selfie avec leur cocktail complexe sur un rooftop. On a l'impression qu'ils ont rompu avec l'ancien monde. Mais en fait, ils appliquent à la lettre les mêmes codes de hiérarchie tribale que leurs grands-parents.
C'est la même lutte pour le statut. Le code source humain reste identique. C'est juste maquillé sous un vernis de fluidité internationale.
Finalement, c'est juste un filtre Instagram sur des règles millénaires.
C'est exactement ça. La lutte pour la reconnaissance se met jamais sur pause, que ce soit en négociant des tomates ou en choisissant sa place sur un rooftop.
Mais au fond, pourquoi c'est important de décoder tout ça? Pourquoi s'encombrer l'esprit avec ces grilles de lecture au quotidien?
Pour guérir de notre propre cécité sociale. Comprendre ces mécaniques cachées de l'espace, du temps, du corps, c'est acquérir une compétence de survie intellectuelle, tu vois.
Savoir qu'un détail n'est jamais juste un détail.
Voilà. Ça permet de lire n'importe quelle dynamique. Un dîner de famille avec ses non-dits, une réunion d'équipe tendue. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du proche. En ralentissant notre regard, on découvre des abîmes de sens dans l'ordinaire.
C'est super puissant. Et pour clore cette analyse, il y a une pensée assez provocatrice qu'on peut garder en tête. On a vu comment les lieux physiques révèlent nos valeurs. Mais aujourd'hui, une énorme part de notre quotidien, il a migré sur nos écrans.
C'est le nouvel espace public.
Exactement. Et si on imagine un instant un anthropologue de l'an 2100, s'il venait fouiller nos espaces numériques d'aujourd'hui, nos groupes WhatsApp familiaux, la mise en scène hyper contrôlée de nos vies sur Instagram, ou la violence symbolique de laisser un message en vue sans y répondre.
Ah, le fameux « vue », c'est une sacrée gestion de la distance.
Totalement. Quels nouveaux codes invisibles de hiérarchie sociale, de pudeur ou de respectabilité dirait-il qu'on est en train de bâtir, là, sous nos doigts, sans même s'en rendre compte? Le code source de la rue commence à peine à livrer ses secrets, mais le code numérique, lui, il est déjà en train de programmer nos comportements.
Une excellente question à se poser la prochaine fois qu'on déverrouille son écran.
Absolument. C'est une idée qui mérite qu'on s'y attarde. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée dans les codes cachés de notre quotidien.